Vous écoutez RTL.
La Cité de l'Espace à Toulouse. Exposition interactive, cinéma IMAX 3D, planétarium, simulateur, animation étonnante. À la Cité de l'Espace à Toulouse, l'univers n'a pas fini de vous surprendre.
RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre cabinet de curiosité. Comment ça va Sidonie?
Ça va super Thomas, merci. Salut les amis, bienvenue dans notre cabinet de curiosité. Allez, au programme, on va tenter d'en finir avec les râles, les dénigreurs, les pessimistes et les déclinistes. Vous nous avez reconnus, c'est nous les Français.
C'est vrai qu'on est râleurs.
Ouais. On va vous donner plein de belles raisons d'afficher notre fierté, notre chance et notre bonheur d'être Français.
Et puis on en parlait avec Marc-Olivier Fogiel, ce récit glaçant, celui d'une journaliste qui a enquêté pendant un an clandestinement dans les laboratoires d'expérimentation animale. Chaque année, en Europe, ils sont plus de 11 millions à subir ces tests, des rongeurs, mais aussi des chats, des chiens, des chevaux ou des singes. Ne ratez pas le témoignage d'Audrey Jougla, ce sera à partir de 21h15. Mais tout de suite, on ouvre les portes d'un palace. Bienvenue au Ritz.
La curiosité est un vilain défaut.
Welcome to the Ritz.
4 lettres et une adresse. 15 Place Vendôme, symbole du luxe à la française. Voilà pour le côté face de l'hôtel Ritz.
RTL.
Putting on the Ritz.
Coco Chanel, mademoiselle qui vit au Ritz, donne ses dernières recommandations à sa plus proche collaboratrice.
Putting on the Ritz.
Welcome to the Ritz.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On le surnommait le roi des hôteliers et l'hôtelier des rois, César Ritz, a donné son nom à l'un des plus grands palaces parisiens. En travaux actuellement, il vient d'ailleurs de subir un incendie, on en parlait à l'instant. Pendant le chantier, on vous raconte l'histoire de César Ritz, ce génie venu de Suisse avec la romancière Pauline Gaillat-Laburte. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue. Alors un petit mot de cet incendie, même si vous n'êtes pas journaliste, il est survenu il y a 3 semaines. On sait s'il y a eu beaucoup de dégâts.
Alors effectivement, il y a tout le dernier étage qui a brûlé et la toiture aussi qui est un peu partie en fumée. Donc ça retarde l'ouverture qui devait avoir lieu en mars et qui aura lieu sans doute plus tard dans l'année.
Peut-être début juin, c'est ce qui est annoncé. Le 1er juin, ça serait une jolie date, pourquoi ?
Parce que le Ritz a ouvert le 1er juin 1898, donc ça serait une belle façon de fêter les 118 ans d'existence du Ritz.
Bon, on leur souhaite d'avancer suffisamment vite et que les travaux soient terminés pour pouvoir ouvrir à cette date.
Qui possède le Ritz aujourd'hui ?
Alors c'est Mohamed El Fayed qui l'a racheté en 1978. Et avant ça, ça appartenait à la famille Ritz depuis la création en 1898.
Alors celui qui avait donné son nom à ce palace, justement, c'est César Ritz. Il est né en février 1850 en Suisse. C'est un montagnard.
Oui, complètement. Il est né dans un tout petit village qui s'appelle Niederwald, c'est dans le Valais. Et au dernier recensement, il y a 45 habitants, donc c'est vraiment un petit trou.
Il naît dans une famille riche, César Ritz ?
Pas du tout. C'est comme je disais, un tout petit village. Son père est maire du village, mais il ne s'y passe pas grand-chose. C'est le dernier enfant d'une fratrie de 13. Ils ne sont pas très riches. Ils habitent dans une petite maison en bois. C'est vraiment très loin.
Loin de l'hôtel. Ouais. Voilà.
C'est une famille quoi, de paysans ?
Oui, c'est une famille de paysans. Oui, ils ont des vaches, ils ont des chèvres.
D'accord, donc comme on l'a compris, rien ne le prédestinait à devenir l'hôtelier des rois. Dans votre livre Ritzy, qui est publié chez Albin Michel, vous écrivez qu'il est différent de ses frères et sœurs. Alors c'est la romancière qui a écrit ça ou il y avait effectivement un caractère particulier chez César Ritz ?
Bon, je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense que la romancière a tiré le personnage vers la différence pour pouvoir en faire un personnage intéressant dans le roman. Mais je pense aussi que sa mère avait beaucoup fondé d'espoir en lui. Elle voulait qu'il soit peintre. Elle s'imaginait que c'était un génie qui allait peindre dans les cours européennes de l'époque. Alors qu'en fait, il ne savait sans doute pas tenir un crayon. Et il a fait des études au collège de Sion qui ont été assez décevantes. C'était un élève assez médiocre. Il n'a pas du tout appris à dessiner. Donc, à ce stade-là, il n'avait pas vraiment quelque chose d'exceptionnel.
Donc, il était chez les Jésuites, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Ouais. Il était dans un collège à Sion.
Alors, il déçoit en quelque sorte un peu son père qui voulait qu'il soit chez les curés et un peu sa mère qui espérait qu'il soit peintre. C'est quoi son premier contact à César Ritz avec la restauration, le monde de l'hôtellerie ?
Bah en fait, comme il a eu des études finalement très décevantes, au bout de 3 ans, son père décide de le retirer du collège et il l'envoie à Brigue, qui est aussi un petit village suisse, une petite ville, à l'hôtel Couronne et Poste. Et donc là, il est sommelier, il est chargé de présenter les vins aux clients qui sont là, qui sont des familles assez bourgeoises, qui sont en transhumance vers Saint-Moritz. Mmh. Et il convainc pas vraiment, en fait, parce que il est plutôt tir au flanc. Il casse les assiettes, le sommelier en chef est très déçu par son attitude un peu je m'en foutiste.
Que lui dit le directeur de ce premier hôtel où il travaille ?
Alors il lui dit qu'en fait il n'est pas du tout fait pour l'hôtellerie et qu'il ferait mieux d'abandonner tout de suite. Et c'est quelque chose qui l'a vraiment marqué, cette phrase, parce qu'il en reparle après, sa femme en reparle dans les mémoires qu'elle laisse sur lui.
J'adore ça, parce qu'il y a plein d'histoires de génie dans un domaine, et quand on remonte dans leur enfance, il y a quelqu'un qui leur a dit t'es pas fait pour ça. C'est vrai, de grands sportifs, d'un homme comme César Ritz.
Et il va pas abandonner d'ailleurs,
même,
César Ritz.
On en avait parlé c'était Einstein aussi, où on lui avait dit qu'il était vraiment pas doué pour les études et qu'il arriverait à rien.
Et très mal coiffé.
Il
en
tellement,
fait,
ça c'est sûr. Il tirait la langue en plus. Tellement de génie comme ça qu'on a voulu enterrer.
César Ritz, il ne renonce pas évidemment à sa vocation, et en 1867, il vient pour la première fois à Paris. Avec quel objectif ?
En fait, il a. Juste avant de venir à Paris, il avait commencé à vraiment s'intéresser un petit peu à la restauration. Il était dans un collège jésuite, encore une fois, mais dans les cuisines. Donc, il a mis un premier pas, on va dire, dans la restauration. Et donc, quand il arrive en 67 à Paris pour l'exposition universelle, il se fait embaucher comme homme à tout faire, en fait, dans un hôtel.
L'hôtel de la fidélité,
exactement,
c'est ça.
Exactement, ouais. Voilà. Et donc, il sert à tout. Il cire les chaussures des clients, il porte les bagages, etc.
Est-ce qu'il est plus adroit ? Est-ce qu'il est moins tir au flanc, César Ritz, à cette époque ?
Moins tir au flanc, ouais. Oui, apparemment, parce que ça lui a un peu mis un coup de pied aux fesses de se faire virer de son premier hôtel. Donc, il a très envie de réussir, mais il n'est pas très adroit de ce qu'il fait pour le moment. Et il y a encore du boulot.
Il continue de casser de la vaisselle. Il y a une rencontre qui sera importante, Pauline Gaillat-Laburte, dans la vie de César Ritz. C'est la rencontre avec Auguste Escoffier. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui il est, Auguste Escoffier ?
Oui, alors... On le connaît un petit peu plus que César Ritz. C'est vraiment le père de la cuisine moderne, de la cuisine moderne française, et aussi qui a fait rayonner la cuisine française à l'international. Avant lui, c'était beaucoup de plats en sauce, beaucoup de crème, etc. Lui, c'est un peu aussi le fondateur de la diététique, comme on peut la connaître maintenant. Et puis, il nous a laissé des tas de recettes. C'était la chandeleur il n'y a pas longtemps. Les crêpes Suzette, c'est lui. La pêche Melba, c'est lui. Donc, on connaît
que de belles idées.
Ça.
Ah, voilà.
Je pense que j'ai pris un yaourt 0% avec André Facetta pendant notre dîner.
Vous ne connaissiez pas encore Auguste Escoffier.
Non, j'avais raté,
voilà.
Auguste Escoffier.
Vous rattraperez demain.
Et ses desserts. 1870, la guerre franco-prussienne. Qu'est-ce que ça fait ? Ça renvoie César Ritz dans sa Suisse natale. Mais il va heureusement très vite revenir en France et gravir tous les échelons de l'hôtellerie. A tout de suite sur RTL.
Soyez fiers d'être curieux.
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France. RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité de découvrir un personnage au destin hors du commun. César Ritz, l'homme qui a réinventé les palaces. C'est Pauline Gaillat-Laburte qui nous fait visiter les grands hôtels qu'il a créés. César Ritz, c'était quel type d'homme ? Un perfectionniste ?
Complètement. C'est vraiment quelqu'un qui a le sens du détail, qui est très attaché aussi à sa propre apparence. Il a 300 costumes dans sa garde-robe, il en change tout le temps. C'est quelqu'un qui est vraiment très tatillon. C'est aussi quelqu'un qui s'attache beaucoup à l'hygiène dans ses hôtels.
Il est maniaque ?
Oui, il est un peu maniaque. En tout cas, moi, j'en ai fait un personnage très maniaque.
Vous avez forcé le trait un tout petit peu.
J'ai complètement forcé le trait, oui.
Et parce que vous publiez un roman Ritzy chez Albin Michel où vous racontez l'histoire du Ritz et de César Ritz.
Tout à fait. Et donc pour tout ce qui concerne l'hygiène, en fait, il a aussi enlevé tout ce qui était les tentures dans les hôtels, tout ce qui était attrape-poussière, en fait.
Mais vraiment... exigeant au point d'être peut-être détesté par ses employés, par exemple, est-ce qu'il irritait ?
Je ne sais pas s'il irritait, mais c'est sûr que quand on travaille avec un perfectionniste, parfois c'est dur de suivre le rythme. Donc, je pense quand même que c'était un meneur d'hommes et qu'il a su entraîner les gens derrière lui pour accomplir sa vision.
En présentant César Ritz tout à l'heure, je disais que c'était un génie. Un génie, c'est quelqu'un qui est en avance sur son temps. On dit souvent en avance d'une génération. En quoi il a réinventé l'hôtellerie, la grande hôtellerie de luxe, César Ritz ?
Je pense que d'abord, il en avait vraiment fait une expérience. On parlerait aujourd'hui d'entertainment. Pour lui, c'était vraiment ça, en fait. Il a introduit la musique dans les bars de ses restaurants. Il a introduit aussi tout ce qui peut être technologie moderne. Il y a des ascenseurs, l'eau chaude dans les salles de bain privées, dans les hôtels, etc. Des choses qui n'existaient pas du tout avant. En fait, il a fait entrer le confort moderne dans les hôtels. Avant, on était plutôt dans le luxe froid.
C'est lui qui fait entrer les pianos dans les bars d'hôtels ?
Il y a ça aussi, oui. Il embauche des musiciens à chaque fois et c'est aussi le but de faire rester les clients plus longtemps pour qu'ils consomment.
Ouais. Passer un bon moment, quoi.
Aussi.
Alors, on l'avait laissé tout à l'heure, César Ritz, contraint de quitter la France à cause de la guerre de 1870. On le retrouve en 1873. On s'imagine, on est à l'exposition universelle de Vienne, en Autriche. Pour qui travaille-t-il là-bas ?
Alors, il travaille pour un restaurant à nouveau qui s'appelle Les Trois Frères Provençaux. Et puis, il travaille aussi en extra au pavillon impérial de l'exposition universelle. Donc, ça lui donne l'occasion de rencontrer pas mal de célébrités, entre guillemets, de l'époque. Il y a Bismarck qui est là, il y a l'empereur Guillaume, il y a le futur roi Édouard VII, qui est encore prince de Galles à l'époque, et avec qui il va vraiment débuter sa relation à ce moment-là et qui le suivra toute sa vie.
Ça veut dire que le prince de Galles, on y reviendra tout à l'heure, mais il sera fidèle à César Ritz.
C'est ça, en fait, il dira là où va Ritz, j'irai aussi, et il lui sera fidèle toute sa vie.
Et on expliquera pourquoi, il y a un détail très intime, il a été aussi fidèle à César Ritz. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il côtoie pour la première fois les grands de ce monde.
Oui, c'est ça. Il y prend goût aussi, je pense. Et du coup, toute sa vision de l'hôtellerie après sera aussi à destination de ces clients-là.
Et pourtant, dans ces années 1970, César Ritz n'est pas encore son propre patron. Il n'a pas encore créé les grands hôtels qui feront sa légende. Mais partout où il passe quand même, il l'étonne. Exemple, à l'hôtel national de Lucerne. Que fait-il pour un mariage important ?
Alors, il fait toujours des choses assez incroyables. En l'occurrence, là, il plante un jardin magnifique à l'hôtel pour une soirée, en fait. Il fait repousser la jungle avec des animaux exotiques, etc.
Et quand c'était le mariage de qui ? On s'en souvient ? Non, ça n'a pas été noté. Je crois qu'aussi, il y a un jeu d'eau particulièrement impressionnant à l'occasion de ce mariage. C'est ça, il éclaire les fontaines de l'hôtel.
Ça lui arrive souvent d'éclairer les fontaines. Il organise aussi ce qu'il appelle des boating parties. Donc sur le lac de Lucerne, il fait voguer des bateaux complètement illuminés de lanternes. Donc c'est aussi très très beau. Il a vraiment le sens du spectacle, en fait.
Et de la démesure aussi.
Et de la démesure, oui, c'est jamais mesuré les fêtes qu'il organise. C'est assez incroyable.
Avec une marge d'erreur peut-être aussi.
Rarement.
Des fêtes qui ratent. Ah oui, il est si bon que ça, César Ritz.
C'est vraiment un perfectionniste, il pense presque à tout. Il y a juste une fois où, effectivement, en organisant une de ses fameuses boating parties, il espère que la lune va éclairer la scène, sauf qu'il a oublié qu'en fait, ce soir-là, il n'y avait pas de lune.
Donc, la lune n'obéissait pas à César Ritz.
Personne n'est parfait, c'est rassurant. Ce grand hôtel national de Lucerne, il va même le sauver de la faillite. Dans quelles conditions ?
En fait, quand il y arrive, donc il est nommé directeur général de l'hôtel, c'est la première fois qu'il dirige vraiment un hôtel. Et quand il arrive, l'hôtel est dans un état assez catastrophique. Ça a été laissé un petit peu à l'abandon. Il y a des trous dans les draps. Les tapisseries sont en train d'être mangées par les mites. Et donc, lui, il remet ça un peu d'équerre. Et puis surtout, son avantage à César Ritz, c'est qu'il a réussi à se faire un carnet d'adresses. Il a toujours avec lui un petit cahier qui est son who's who et il connaît pas mal de gens. Et donc, il écrit à tout le monde en disant « Venez découvrir le nouvel hôtel que je viens d'ouvrir ». Et c'est comme ça qu'il arrive à sauver cet hôtel de la faillite en faisant venir les têtes couronnées et tout le beau monde découvrir ce nouvel hôtel.
Et puis, quand il a des soucis, c'est aussi un inventif. Vous racontez dans votre livre « Ritzy » qui est publié chez Albin Michel, Pauline Gaillat-Laburde, vous racontez qu'un jour, le système de chauffage du grand hôtel de Lucerne, du grand hôtel national de Lucerne, tombe en panne. Qu'est-ce qu'il fait ?
Alors ça, en fait, c'est dans l'hôtel où il est avant, c'est horrible.
Ah, c'est dans un autre hôtel, oui.
Et effectivement, il y a 40 touristes américains qui doivent arriver à l'hôtel ce soir-là. Et le chauffage électrique est tout neuf et est tombé en panne. Et du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il entraîne toute l'équipe de l'hôtel avec lui. Il récupère tous les cache-pots des plantes vertes qu'il y avait dans l'hôtel. Il en fait d'énormes brasseros. Il met tout ça dans une petite pièce pour que ça chauffe plus vite. Et les 40 Américains, il les accueille là. Il fait chauffer des briques pour leur mettre sous les pieds pour qu'ils aient bien chaud. Il leur sert des potages, des crêpes flambées. Et les Américains sont absolument ravis.
Ah bah oui, c'est couleur locale d'un seul coup.
Tout à fait.
dans son aventure, est-ce qu'il accompagne toujours, est-ce qu'il s'accompagne, pardon, toujours d'Escoffier, de ce cuisinier français révolutionnaire ? Est-ce que c'est un duo qui a fonctionné comme ça au fil du temps ?
Alors, ils se sont rencontrés plutôt quand ils avaient 30-40 ans, donc c'est plus tard dans sa carrière, quand il sera plutôt sur la Côte d'Azur. Mais à partir du moment où ils se rencontrent, ils ne se lâchent plus. Partout où Ritz ouvre de nouveaux hôtels, il veut absolument que Escoffier soit en tandem avec lui, parce que pour lui, vraiment, l'hôtellerie, c'est un tout, c'est hôtellerie-restauration. Et pour qu'il y ait un bon hôtel, il faut qu'il y ait un bon restaurant et un beau chef.
C'est un duo, Escoffier et Ritz, sans nuages. Ils s'entendent bien?
Apparemment, ils s'entendent plutôt très bien, même. C'est une très, très grande amitié, voire même un très grand amour. Je pense qu'on peut avoir des amitiés amoureuses sans... Voilà.
Pourtant, ils ont des gros caractères.
Et ils ont des gros caractères, mais en fait, ils se rencontrent vraiment bien parce que César Ritz, lui, a la vision de rénover vraiment de l'hôtellerie, de le faire entrer dans la modernité. Et Escoffier a exactement la même ambition pour la restauration. Donc, ils s'entendent très bien.
Ils se ressemblent un peu? Vous iriez jusque-là?
Pas physiquement en tout cas, mais en tout cas dans la vision, oui. Et je pense que tous les deux sont des génies à leur façon.
Ouais, on n'a pas décrit d'ailleurs César Ritz physiquement. C'est un petit monsieur, un grand imposant.
Un grand échalas.
Il y a un portrait en couverture de votre livre. Bon, il porte la moustache, forcément, c'est
oui,
l'époque.
C'est l'époque. Il est plutôt brun et il a les yeux bleus. C'est quelqu'un, je pense pas, de physiquement très charismatique. Par contre, toujours tiré à quatre épingles, d'où les 300 costards dans le placard.
300 costumes.
Voilà.
Et il se changeait plusieurs fois par jour, du coup.
Et il changeait, oui, à chaque fois qu'il pouvait, il changeait de costume.
Vous devriez faire ça, Thomas.
Ah, ça vous plairait?
Ah bah oui, je trouve ça génial.
J'allais dire un truc très sexiste, un truc de fille, ça, de se changer plusieurs fois par jour.
Vous avez répondu à votre propre question. César Ritz commence à se faire un nom dans l'hôtellerie, mais où et comment va-t-il créer son premier rétablissement? L'histoire nous emmène sur la croisette dans un instant sur RTL. Mettez votre nouveau costume.
Allez, une belle cravate.
Si votre défaut, c'est la curiosité,
vous écoutez RTL.
Alors vous êtes bien sur RTL.
Les professionnels du gaz PG.
En ce moment, vous pouvez faire des économies avec les professionnels du gaz. Et c'est facile. Avec les professionnels du gaz, qualifiés RGE, vous bénéficiez de 30% d'économies pour l'achat d'une nouvelle chaudière gaz haute performance grâce au crédit d'impôt. Et jusqu'à 30% d'économies d'énergie à l'utilisation.
30% d'économies à l'achat et jusqu'à 30% à l'utilisation? Waouh! Pas d'hésitation.
Alors, contactez votre professionnel du gaz PG.
Les professionnels du gaz PG.
L'énergie est notre avenir. Économisons-la.
Hey, pour la Saint-Valentin, tu l'offres quoi, toi, à la femme de ta vie?
Je vais aller chez Citroën faire l'entretien de ma voiture.
Ok, et pour l'autre femme de ta vie?
Ah non, c'est bien ce que je te dis. Si tu vas faire des réparations chez Citroën, Citroën t'offre ton dîner en amoureux.
Ah d'accord.
Du 11 au 13 février, pendant les portes ouvertes à pré-vente, pour 200€ d'achat, Citroën vous offre un dîner Saint-Valentin.
Citroën.
Offre réservée aux particuliers du 11 au 13 février, 50€ remboursés pour 200€ de prestations ateliers, hors carrosserie, accessoires et contrats de service dans le réseau participant. Détails sur citroën.fr.
RTL.
Première radio de France.
Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
On vous raconte l'histoire du Ritz dans la curiosité, ou plutôt de Monsieur César Ritz, l'hôtelier génial de la fin du 19e et du début du 20e siècle. On le découvre grâce à Pauline Gaillat-Laburte qui publie Ritzy chez Albin Michel. Ritzy, c'est son surnom?
Alors non, en fait, c'est passé à la postérité Ritzy à partir de Ritz, et en anglais, ça veut dire trendy, classe au sens français du terme.
Ah, c'est un mot, c'est devenu un mot anglais, Ritzy.
C'est devenu un mot commun.
D'accord, c'est synonyme de quoi? De luxe?
De luxe, oui, de classe, de chic.
C'est pas passé dans notre langage français, en
non,
tout cas.
Non, c'est drôle, ça. On dit pas qu'est-ce que t'es Ritz ce soir pour dire qu'est-ce que t'es bien habillé
pas
ou qu'est-ce
encore.
Que t'es chic. Mais c'est drôle. Mais je me posais la question en voyant la conduite musicale. Peut-être qu'on peut en écouter un tout petit extrait. On a le titre d'Ella Fitzgerald, Putting on the Ritz. Et je comprenais pas ce que c'est. Ah, c'est nul en anglais.
On va l'écouter à la fin.
Je comprenais pas ce que ça voulait dire. Ça veut dire quoi, Putin on the Ritz?
Bah, ça veut dire se mettre sur son 31.
Eh ben voilà, ça y est, maintenant, grâce à vous, j'ai compris.
Mais c'est une référence à l'hôtel.
Comment elle pouvait utiliser ce terme-là. On l'écoutera tout à l'heure. In extenso, ce titre d'Ella Fitzgerald. Donc, son nom est devenu synonyme de luxe. Mais cet empire hôtelier, César Ritz, il aurait pas pu le construire sans une femme, sa femme, qui est Marie-Louise Beck.
C'est ça. En fait, il l'a rencontrée quand elle était assez jeune. Elle avait une dizaine d'années. Et elle venait du milieu de l'hôtellerie. Elle, ses parents étaient hôteliers, d'abord en Alsace et puis après sur la Côte d'Azur. Et il l'a épousée sans doute par amour, mais aussi parce qu'elle apportait dans la corbeille tous ses parents de l'hôtellerie.
Ouais.
Et elle a été après chargée dans ses hôtels. Vraiment, lui, il se chargeait de tout ce qui était clientèle, mais elle se chargeait de la décoration et de la bonne marche aussi du staff derrière.
Ils ont toujours travaillé ensemble, en
oui,
fait.
Oui, c'était vraiment... On a parlé tout à l'heure du duo avec Escoffier, mais il y avait aussi ce duo-là avec sa femme et, qui n'est pas du tout développé dans le roman parce que moi, je voulais un personnage central. Mais ça a été vraiment aussi un partenariat toute leur vie.
En tout cas, c'est un homme, César Ritz, qui sait bien s'entourer. Quand a-t-il acheté son tout premier hôtel ? C'était où ?
Alors, c'était l'hôtel de Provence à Cannes. Ouais. Et il a acheté en même temps le restaurant de la conversation à Baden-Baden.
Il a un projet ?
Mais,
une idée ?
Ouais. Et il mène les deux de front, parce que c'est et pas tout près, Cannes et Baden-Baden.
C'est un homme qui a pas mal voyagé. Il était toujours sur les rails, en l'occurrence, à l'époque. Toujours entre deux trains. Et il gérait beaucoup d'hôtels en même temps. Donc, c'est vrai que c'était un grand voyageur. Mais je pense que de nature, c'était un peu un excité. Qui s'arrêtait jamais, il dormait 2-3 heures par nuit. Donc, il avait le temps de faire tout ça.
Et son ambition à Cannes, par exemple, qu'est-ce qu'il voulait faire, César Ritz, de son hôtel de Provence ?
Je pense que...
Quel genre de lieu ?
Un lieu très à la mode, ça, ouais. Toujours, ça sera surtout dans tous les hôtels qu'il va ouvrir. Pas mal de bling-bling, de grands événements, l'aristocratie, la haute bourgeoisie, etc.
Ça va rapidement marcher, cet hôtel de Provence ? Il va arriver à attirer rapidement une très belle clientèle ?
Oui, parce qu'encore une fois, il a ce réseau incroyable, il connaît toutes les têtes couronnées d'Europe, donc il suffit un peu d'un claquement de doigts. On descend même plus à l'hôtel de Provence, on descend chez Ritz. Donc avant même qu'il y ait son nom sur la façade, on va chez Ritz.
C'est déjà devenu une marque d'une certaine façon. On parlait des marques familiales dans cette émission il y a quelques jours. C'était hier ou avant-hier, je ne sais plus, ça passe trop vite. César Ritz, en tout cas, il a l'œil pour détecter les défauts dans un nouvel hôtel, Pauline Gaillat-Laburde. Par exemple, quand il découvre le Savoy, le Savoie à Londres, qu'est-ce qu'il dit ?
C'est un hôtel qui a été un peu lancé en grande pompe parce que c'est le summum de la modernité. Il y a ce qu'ils appellent des speaking tubes entre les chambres et puis l'office pour que les clients puissent directement appeler les domestiques. Il y a l'éclairage électrique, etc. C'est un scénariste en fait qui a fait ça. Doyle Carr, c'est un gars de spectacle, donc tout est censé être parfait. Et César Ritz, lui, voit vraiment ce qui fonctionne pas, c'est-à-dire que ils ont embauché un chef tout à fait moyen, la domesticité ne se comporte pas forcément très bien. Donc lui, il voit ce qui ne fonctionne pas. Et effectivement, au bout de 6 mois d'ouverture, l'hôtel est complètement en déficit.
Et
donc il va partir ou il va le sauver, cet hôtel ?
Alors au départ, ce n'est pas lui qui gère. Mais au bout de 6 mois, l'administration se rendant compte que ça part complètement à volo, l'appelle et le supplie de venir redresser la barre. Et lui, il va y arriver très facilement. Tout le monde lui prédit qu'il va échouer. Mais non, il redresse la barre facilement.
Et alors, vous nous l'avez dit, dans sa philosophie de l'hôtellerie, il y a le luxe, il y a l'entertainment, le divertissement. Il organise des fêtes somptueuses. Donc, en fait, c'est de la publicité, d'une certaine façon.
Oui, tout à fait. C'est d'énormes campagnes marketing. On vient de parler du Savoy. Il y a un jour où il décide d'inonder la cour de l'hôtel et de faire voguer des gondoles dessus parce qu'il pense que ça va faire parler de l'hôtel. Et effectivement, ça marche très, très bien.
Ben oui, on imagine à Londres, il n'y a pas souvent des gondoles dans la cour du Savoy.
Il a aussi des idées très précises en matière d'hygiène. Vous nous avez dit que c'est un grand maniaque en termes d'hygiène et d'éclairage. Il va, César Ritz, s'appliquer ses idées à Rome dans les années 1890, comment ?
En termes d'électricité, en fait, c'est vraiment le père de l'électricité en hôtellerie. Donc, c'est lui qui fait le premier dans tous ses hôtels à installer l'électricité dans toutes les chambres. C'est aussi le père de ce qu'on appelle l'éclairage indirect, c'est-à-dire qu'il fait, comme il est très maniaque, il fait cacher les ampoules dans les corniches des plafonds pour pas qu'on les voie. Et puis, il s'applique vraiment à choisir toutes les teintes des abat-jours pour que ça flatte le teint des dames, parce qu'il a toujours cette culture de la perfection et de plaire aux clients.
Ça, c'est pour la lumière et pour l'hygiène. Alors, il a l'idée de mettre une salle de bain par chambre.
Une salle de bain par chambre, l'eau chaude aussi, ce qui n'était pas forcément le cas.
Quelle révolution !
Quelle révolution, oui.
On est au tournant du siècle, juste avant 1900. Il commence à quoi ? Posséder plusieurs hôtels ? C'est presque un mania de l'hôtellerie, César Ritz ?
Oui, alors en fait, à cette époque-là, il y a la Ritz Syndicate, auquel il appartient, et qui est chargée d'ouvrir des hôtels un peu partout dans le monde, pas forcément sous la marque Ritz, mais donc il est partie prenante dans beaucoup d'hôtels. Il y a le Savoy à l'époque, puis le Ritz quand il l'ouvre en 98, et puis il y a le Frankfurter Hof, il y a le Grand Hôtel des Thermes en Italie, il y a le Claridge à Londres, donc il a des parts dans pas mal d'hôtels.
Voilà, et le Ritz ? Premier hôtel qui porte son nom, c'est 1898. Vous avez de la chance, on a une invitation pour vous. Restez avec nous sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas.
Nous sommes
dans les cuisines du Ritz, un endroit mythique, ouvert 7 sur 7, toute l'année, jour et nuit.
Alors, depuis combien de temps existe le Ritz?
Alors, Ritz, c'est 1898.
RTL.
Alors, Rémine, ouais, bon, bah, c'est pas compliqué, le gars était censé être écrivain. Mais si on en croit les guides du routard du monde entier, hein? Bah, le gars a passé sa vie à inventer des cocktails, en fait.
La plomberie, l'électricité, oui, il y a des choses comme ça qui doivent être refaites. Mais tout le reste, c'est le Ritz. C'est historique et c'est la maison.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Ah, le Ritz même, Camille Chamou, humoriste, en parle, elle évoque Hemingway, dont on va raconter l'histoire dans quelques instants, qui a été l'un des clients fidèles de cet hôtel. Bah justement, on vous raconte l'histoire de son créateur, César Ritz, en compagnie de la romancière Pauline Gaillat-Laburte. Alors, le 1er juin, normalement, c'est la réouverture. En tout cas, ce serait une date symbolique pour la réouverture du Ritz, qui est encore en travaux. Pourquoi ? Parce que c'est un peu le sommet de la carrière de César Ritz.
Oui, tout à fait. Quand il ouvre le Ritz en 1er juin, donc 1er juin 98, c'est vraiment le sommet de sa carrière parce qu'il a rêvé toute sa vie jusque-là de mettre Ritz sur une façade et pour la première fois, c'est le cas.
Et il y a son nom qui s'étale. Qui est présent pour cette inauguration le 1er juin 1998?
Alors,
1898.
Il y a toute la bonne société française. Il y a Proust qui est là.
Ouais.
Il y a l'Agacan qui est là, il y a le Grand-Duc de Russie, il y a les Rothschild.
L'Agacan qui est un immense milliardaire, c'est
tout
ça?
Tout à fait, ouais. Voilà, donc toute la haute est là en fait.
Le prince de Galles ou pas?
Le prince de Galles n'est pas là pour l'inauguration, mais ça sera un client régulier après.
Ouais. On a déjà parlé de la philosophie de Ritz, mais là c'est la quintessence de sa philosophie. Tout est dans cet hôtel en quelque sorte,
oui,
tout ce dont il a rêvé.
C'est ça, c'est
alors,
vraiment
ça veut dire
concentré.
Quoi
je pense que c'est à la fois le luxe. Étalé à tous les étages, que c'est le confort aussi à tous les étages, dans toutes les chambres, les salles de bain privées, les baignoires, etc. Et puis il a pensé, lui, chaque détail avec l'architecte qu'il a embauché, avec ses décorateurs, donc il a vraiment veillé à chaque détail.
Le bâtiment lui-même a une histoire. Qui vivait au Ritz avant que César Ritz le rachète? C'est une famille princière, c'est ça? C'est déjà
un
beau bâtiment.
Hôtel particulier, qu'il a restauré pour le transformer en hôtel. Il y avait déjà pas mal d'hôtels en fait sur la place Vendôme et il s'est dit qu'un petit peu plus de concurrence ça serait pas mal.
Et c'est déjà la place Vendôme un haut lieu du luxe et de la joaillerie française?
Pas forcément, c'est plutôt un endroit où, comme je disais, il y a plusieurs hôtels, mais c'est pas encore la place que c'est devenu. Et je pense que le Ritz a joué un grand rôle pour faire devenir la place Vendôme ce qu'elle est actuellement.
César Ritz a créé un mythe, l'hôtel a des clients fidèles et prestigieux, au premier rang desquels le prince de Galles, le futur Édouard VII. Monsieur Ritz lui rendait souvent service à ce prince de Galles?
Oui, alors le prince de Galles, il était connu pour avoir une vie assez légère. Et il emmenait souvent ses maîtresses au Ritz, enfin dans les différents hôtels que possédait César Ritz. Et César Ritz était un peu le gardien de sa porte.
De ses amours illégitimes.
Exactement. Et il empêchait les curieux de le déranger quand il était en bonne compagnie. Donc il s'est fait un peu le complice.
C'est ça, un vrai chef d'hôtel aussi. Maître et patron d'hôtel. Et savoir garder les secrets.
Édouard VII, dont on avait révélé l'un des secrets quand on avait fait une émission sur cette exposition sur la prostitution à Paris. Moi, j'avais visité cette expo, et il y avait un meuble assez improbable qui était entre le lit et le fauteuil, et qui en fait avait été construit exprès pour Édouard VII, pour qu'il puisse faire l'amour avec deux courtisanes en même temps. Donc quand il était encore prince de Galles, vous voyez, il n'était pas seulement au Ritz, il allait aussi dans certains hôtels particuliers et très très particuliers, c'est le cas de le dire. Il y a aussi la légende Hemingway, on entendait dans la mise en onde d'André Facetta l'humour de Camille Chamou parler d'Hemingway. Hemingway et le Ritz, c'est une histoire d'amour aussi, on peut dire ça?
Oui, complètement. En fait, Ritz avait vraiment ses quartiers Hemingway avait plutôt ses quartiers au Ritz. Et il y était tout le temps fourré. Et il y a cette histoire, effectivement, qu'il aurait libéré le bar du Ritz pendant la guerre. C'était occupé, en fait, par les nazis à partir de 1940. Il y avait Goebbels, Göring, etc., qui étaient au Ritz. Et Hemingway, en fait, a été voir le général Leclerc pour lui demander des troupes pour aller libérer le bar du Ritz. Parce que, bien sûr, Leclerc...
Libérer les cocktails!
C'est ça, exactement. Leclerc, bien sûr, a refusé. Mais il a quand même marché sur Paris et été libéré le Ritz entre guillemets en 44. Et quand il est arrivé, les Allemands n'étaient plus du tout là. Du coup, pour se consoler, il a été boire 51 Martini Dry au bar du Ritz et il a laissé la note.
Oh, il faut moins ça.
Et le Ritz qui a aussi gardé comme un secret le manuscrit de Paris est une fête, puisque après la mort d'Hemingway, on a retrouvé ce manuscrit dans une malle qui lui appartenait dans l'une des chambres du Ritz. Paris est une fête, qui est redevenu un best-seller après les attentats du 13 novembre. On s'en souvient. Vous racontez l'histoire de César Ritz, Pauline Gaillat-Laburde, dans ce livre Ritz, qui est publié chez Albin Michel. Vous disiez à l'instant que c'était le sommet de sa carrière. C'est aussi le début de sa déchéance physique, en tout cas. Il va pas rester très longtemps au Ritz, César Ritz ?
Non, en fait, le tournant du siècle, les années 1900, c'est vraiment un peu la fin de sa carrière. Il a été un peu toujours rongé par ses propres démons. C'était quelqu'un, comme on l'a dit, très perfectionniste, qui limite avait des tocs. Et puis aussi, la petite histoire un peu cachée, qui n'est pas forcément d'habitude très mise en avant, c'est qu'il a la syphilis. Et donc, il n'est pas en très bon état dans les années 1900. Et très rapidement, en fait, il va être écarté de la tête des hôtels qu'il dirige et il va se retrouver dans un institut psychiatrique en Suisse.
Oui, parce que la syphilis peut provoquer des crises de démence.
Exactement.
Et donc, il faut l'écarter du pouvoir, en quelque sorte.
Oui, il n'est plus du tout capable de gérer les hôtels. Il a des phases de dépression ou de burn-out aigus et il ne peut plus rien faire. Il ne sort plus de sa chambre. Donc,
Alors, qui prend le relais de César Ritz à la tête du Ritz ? C'est sa femme, peut-être, Marie-Louise ?
Exactement, qui jusque-là était assez dans l'ombre, mais finalement, révèle des capacités d'administration assez incroyables. Donc c'est elle qui va gérer les hôtels à sa suite après, avant que ça soit repris par son fils aîné.
César Ritz, est-ce qu'il va s'éloigner du Ritz de Paris et il va vivre jusqu'en 1918, il va vivre plutôt éloigné des siens ou proche des siens ?
Ben, il est en Suisse, donc plutôt loin de là où ça se passe, puisque maintenant toute l'hôtellerie qu'il a lancée se fait plutôt à Paris, à Londres, à Madrid. Donc il est complètement écarté et il reçoit plus tellement de visites. Lui qui avait un carnet d'adresses incroyable, il est complètement mis de côté.
César Ritz meurt le 23 octobre 1918, il meurt seul.
Oui, il meurt seul parce qu'en plus c'est la guerre. Sa femme et son fils sont en France et ils ne peuvent pas recevoir de passeport pour aller le visiter, donc il est tout seul.
Merci beaucoup Pauline Gaillat-Laburde de nous avoir comme ça dévoilé la vie du roi des hôteliers et de l'hôtelier des rois, César Ritz, votre livre Ritzy. Et donc on a appris grâce à vous que ça veut dire luxueux. Trendy. Ce livre est publié chez Albin Michel. Merci beaucoup.
Vous écoutez RTL.